À partir donc des deux interventions, je ne sais pas si de Bruit et de Fureur vous voulez intervenir oralement ou si votre document fait fonction d'intervention. D'accord. Alors, moi, il me semble, en fait, avant de prendre les temps de parole, les tours de parole, je voudrais juste quand même rappeler l'intervention d'Alban en particulier dans deux points qu'elle a soulevés dans son intervention. Dans une première partie, cette sorte de division entre Artemis et les espaces autogérés, je dirais, qu'elle a faite, et puis aussi les questions qu'elle a posées à la fin sur le poids des pétitions, le type de mobilisation, est-ce qu'il y a un mouvement global, un mouvement social global, et la déception concernant la participation, qui est une, dont le document de Bruit et de Fureur est une très très bonne, un très très bon exemple. Je veux dire, donc voilà, le débat est ouvert. Je veux dire, je voulais juste vous rappeler à la mémoire de la première intervention. Voilà. Léon.
Je remercie donc les gens des lieux alternatifs qui nous apportent un peu de fraîcheur et un peu de réflexion sur la manière d'envisager la lutte. Je m'explique. D'abord, je suis très content de voir que vous aviez repris une partie des textes de la dialectique Potelka célébrique. Pour mémoire, j'aimerais juste rappeler que c'est un film dans les années 70 que nous voulions passer dans le ciné-club, club de cinéma, nous appelions court-circuit, et qui nous avait été interdit parce que c'est un film qui avait été piraté, qui était détourné d'un film de karaté venant de Hong Kong. Mais donc je suis content parce que ce sont encore des textes qui sont d'actualité. Et pour mémoire, si je fais un peu d'histoire, j'aimerais quand même rappeler que les grandes luttes, on va dire politiques, ont eu une base culturelle à Genève dans les années 70 et que nous avons un terreau aujourd'hui pour qu'elles se reconduisent de la même manière. Et je pense que tous les groupes politiques, qu'ils aient une appartenance politique institutionnelle ou pas, doivent se pencher avec une extrême attention sur le travail qui est fait dans ces lieux-là et sur les expressions qui en sont issues. Parce qu'autour d'elles peut se construire une nouvelle résistance. Et c'est autour de ces résistances que nous arriverons à sensibiliser la population et à rassembler plus massivement et non pas justement à écouter les dieux qui veulent nous canaliser et nous enfermer dans des canaux bien précis, trop précis, parce qu'on a besoin de mettre les gens, de mettre des étiquettes, et on a besoin que les groupes s'élargissent. On a besoin qu'il y ait une extension de la conscience collective culturelle, et on a besoin, comme le disait Alban tout à l'heure, de communication entre nous et d'information entre nous. Mais on a aussi besoin de mobilisation entre nous, c'est-à-dire de savoir aller chez eux, les rencontrer, et à savoir être à leur côté quand il y a des actions. L'affaire des 19 000 signatures est absolument inadmissible. Qu'elle passe du Grand Conseil à l'administratif de la ville de Genève n'est pas une réponse. Elle est d'autant moins une réponse qu'actuellement, il y a un projet de loi qui est en train de travailler sur pour donner plus d'importance à l'État dans la culture à Genève. Et ceci est directement issu du travail qui a été fait au RAC. Et autour de ce travail-là, il y a une définition très mauvaise de la culture qui va en être issue. Il parle de culture professionnelle. Et ça veut dire qu'est-ce qu'une culture professionnelle? À partir du moment où l'homme, la femme vit de son métier de comédien ou de musicien ou de plasticien, ou est-ce qu'en fait la culture existe dès qu'un homme, une femme s'investit dans une création qu'elle peut montrer visuellement à un public comme elle le fait dans les lieux alternatifs tout le temps. On n'a qu'à aller au concert de la CAF 12, on n'a qu'à aller au théâtre de l'usine ou à la projection des films du Spoutnik. Il ne faut pas oublier que les gens qui sont sortis du Spoutnik ont fait des films et ont également animé des lieux culturels, donc des festivals de cinéma, un festival de cinéma. Je crois qu'il est extrêmement important aujourd'hui que nous ayons une prise de conscience réelle autour de la culture et autour de l'habitat. Nous nous sommes battus, nous, sur Chênebourg, jusqu'au dernier moment pour défendre le goulet de Chênebourg, parce que nous estimions que cet espace-là était un espace d'habitation, d'expression, de culture. il est vraiment nécessaire dans une cité comme la nôtre et dans une ville qui est un carrefour, que nous puissions défendre sur des espaces comme le Pave, que nous puissions défendre des espaces qui soient d'habitation, de création et d'expression, et où les artistes puissent se rassembler comme ils l'ont fait à Rhino. Merci.
Merci Léon.
Moi, premièrement, c'était une bonne combine que d'interrompre en fait la voix orale directe par une voix orale indirecte avec tout ce que ça signifie. Mais je pense que la question culturelle ne peut pas être posée comme elle se pose actuellement. En fait, à l'heure actuelle, la culture, c'est effectivement la culture professionnelle, c'est-à-dire la manière des gens de créer de la culture, donc de formater de la culture, et en vue d'un formatage, en fait, de l'opinion ou des gens. Alors que, on devrait bien le voir, la culture, c'est la vie elle-même, elle se trouve dans la vie elle-même, elle se trouve, en fait, dans nos actes les plus élémentaires, et il y a une culture partout, et une culture dans l'usine, je dirais. On l'a entendu. La culture de l'usine devrait être la capacité des gens de l'usine de résister à un certain nombre de prédations du capital. Je voulais juste dire ça, que c'est totalement faux de séparer culture et vie, en général. La culture doit devenir un élément de la vie. À l'heure actuelle, la culture est un élément de formatage de la vie des gens. Et c'est ce sur quoi il s'agit de se battre. C'est d'ailleurs pourquoi la culture libre apparaît comme révolutionnaire maintenant. Parce que il y a cette culture, en fait, officielle, qu'on lit dans les déclarations, etc. Et puis il y a la culture, en fait, qui n'est pas officielle, qui appartient à la vie de tous les jours, et qui est celle d'effectivement des squatters.
Merci Christian. Parole à Eric.
Après, je voulais tout d'abord donc une remarque sur le vocabulaire, disons par rapport à ce que disait Alban Schlechten, qui dit la logique de rentabilité financière prime sur la rentabilité sociale. Et je trouve que, disons, on ne devrait pas reprendre le vocabulaire, disons, quel vocabulaire dominant, et parler de rentabilité sociale. Je pense qu'il faudrait probablement donner un autre concept, disons, pour l'opposer à celle de la rentabilité financière et pas reprendre le terme de rentabilité, parce que ça nous met déjà dans une logique qui est, disons, assez problématique. Je comprends bien que dans les discussions que vous avez avec les autorités, vous, parfois vous devez rentrer dans certaines conceptions, etc., dans vos négociations, mais là je trouve quand même que c'est un peu, disons, problématique. Deuxième chose, je suis convaincu pour ma part que la destruction des lieux de création, avec la destruction de Rhino, avec la destruction des squats, l'évacuation des squats, est un appauvrissement du point de vue culturel, parce qu'il est évident que cette culture-là s'inscrivait dans une orientation subversive. Donc, il y a quelque chose de subversif dans le fait d'occuper donc ces maisons, et il est évident que le mouvement qui s'est engagé pour éliminer donc les squats, à mon sens, s'inscrit dans une tendance plus générale de la société qui veut que tous les lieux, que tous les objets, que tous les espaces soient consacrés à la logique de la rentabilité et du profit, et par conséquent, donc, qui s'attaque aux espaces qui prétendent à une certaine autonomie. Donc ça, je pense, c'est une tendance actuellement qui est forte, et je crois aussi qu'il faut, me semble-t-il, faire très attention dans tous les procès d'intégration, de participation et de clientélisme qui sont un peu liés avec les discussions avec les autorités, donc qui cherchent à intégrer en quelque sorte et à comment dirais-je, énucléer peut-être cet aspect de résistance ou cet aspect de subversif qui est celui de la culture. Donc là, et puis ma dernière remarque, je crois que je trouve très important effectivement tous ces mouvements, donc le mouvement culturel, mais je crois aussi qu'il faut qu'il y ait essayer de tisser des liens avec d'autres mouvements sociaux, parce que ces éléments culturels, ces éléments de résistance peuvent féconder aussi, disons, les résistances dans d'autres domaines.
Et puis après, Rock.
Oui, d'abord un petit mot sur l'instrument de la pétition. Et juste pour rappeler, une pétition est valable même si elle est munie d'une seule signature. Elle doit être traitée par les autorités auxquelles elle a été envoyée. Donc c'est vrai que c'est un instrument, disons, c'est recommandé de l'utiliser. Mais par ailleurs, quand on a beaucoup de signatures, c'est-à-dire qu'on a un support important auprès de la population, c'est évident qu'il ne suffit pas de lancer une pétition. Il faut que le dépôt de la pétition soit doublé des actions ponctuelles, d'une action générale qui appuie toujours dans ce domaine. Moi, je me rappelle les pétitions qui ont été faites dans les années 80 pour la petite enfance. Et bon, on sait que le problème, même s'il était, il a pas du tout été résolu à ce jour. Puis la petite enfance passe des compétences communal, au fédéral, au cantonal, et puis on en est toujours là. Bon, maintenant, autre chose, j'aimerais intervenir aussi sur la question du quartier de Jonction, où il y a surtout cette culture alternative actuellement, mais aussi sur ce qui se passe dans ce quartier actuellement, avec des immenses travaux, des travaux de l'Artamis, des travaux de trams dans la rue de Saint-Georges qui ont provoqué une situation d'enfer pour les habitants qui sont des couches sociales défavorisées. Et je trouve que le seul article que j'ai vu, c'est en fait les habitants qui se plaignaient de ne pas avoir de place de voiture puisque les travaux ont pris la place de voiture, alors que je connais plusieurs personnes qui habitent dans ces lieux d'enfer auxquels on ne propose absolument rien, c'est-à-dire on ne reconnaît pas du tout les effets de ces nuisances. Le quartier est au cœur de Genève. Moi, j'habite Servette, donc c'est un autre quartier bon, qui a subi aussi des constructions de trams. Mais j'aimais bien aller à la jonction parce qu'il y a un certain esprit que j'aime bien. Mais avec ces travaux qui sont actuellement en place, et c'est pas pour être contre les travaux, mais pour reconnaître la nuisance et pour être capable de faire des propositions. Comment est-ce qu'on peut reconnaître et puis dédommager les habitants de ces nuisances? Alors, je pense pas du tout aux questions de loyers qui sont au meilleur marché, mais je pense à des solutions. Nous avons un centre Crécy Bien-être à Genève, par exemple. Nous avons des maisons, des colonies de vacances que les cantons possèdent à la montagne. Alors, les riches, ils sont dans des quartiers super de Genève, et en plus, ils ont des chalets, et le week-end, ils sont même pas là. Et pour les gens qui sont pauvres, ceux qui sont jeunes, ils se débrouillent d'une manière ou d'une autre, prendre leur tente et puis aller dans les forêts ou dans les parcs genevois. Il y a des populations qui subissent des méfaits sur leur santé et auxquelles on ne pense pas, et ils ont pas assez de force pour réagir eux-mêmes. Quand ils voient que la seule nuisance, c'est ça demande le nombre de places des voitures augmentées alors qu'ils n'ont jamais eu de voiture et puis qu'ils ne peuvent même pas se reposer, pourquoi est-ce qu'on leur propose pas des séjours d'une semaine à la montagne avec ces chalets qui, pendant toute la période où il n'y a pas de vacances scolaires pour les enfants, sont fermés? Donc je trouve qu'au-delà, disons, de la lutte radicale, des positions radicales, il faut aussi demander des faveurs bourgeoises, si je puisse les appeler comme ça, parce que ça fait partie aussi de la qualité de vie et aussi de la culture des vies dans des quartiers.
Merci Magdalena. Françoise veut donner une réponse.
Faire une toute petite intervention dans un temps qui nous est précieux, je veux dire, pour qu'on n'oublie pas du tout le document de Bruit et de Fureur, parce que il y a eu la première intervention de Léon Meynier qui était très importante pour resituer, et puis celle de Christian, pour resituer la culture pas simplement dans le domaine des professionnels, parce qu'on est dans une dérive de professionnalisation, mais la culture, c'est effectivement, fait partie de la vie. Et ensuite, dans ce que le document de Bruit et de Fureur qui nous a été proposé, je trouve qu'il y a un lien très direct entre l'intervention d'Yves Mugny, la première intervention d'Yves Mugny sur la collusion entre, les politiques, c'est-à-dire le rôle de l'État et la rentabilité économique. Et je crois que ça serait vraiment important qu'on voit quelles sont les formes de résistance qu'on va mettre en avant pour que le quartier en question, qui est l'enjeu d'une spéculation immobilière extrêmement importante, dont vient de parler, Maldalena, mais qui est aussi l'enjeu, par exemple, de ce qui se joue autour du musée d'ethnographie. Il y a une pétition qui circule en ce moment contre l'abattage des arbres. Rappelez-vous quand même que ce musée d'ethnographie devait être construit dans un quartier nettement plus propre, entre guillemets, mais où il y a eu une telle résistance, de la bourgeoisie, de la ville, pour qu'il ne soit pas construit à cet endroit-là. Donc, en fait, il y a effectivement un enjeu immobilier extrêmement important sur le quartier de la Jonction. Et là aussi, on est en train de diviser à l'intérieur même de la ville ce qui était le mouvement alternatif, des années 70 dont parlait Léon tout à l'heure et dont j'ai été partie prenante aussi dans toutes les communautés, etc. Donc la culture fait partie de la vie et je trouve que le document de Bruit et de Fureur fait une critique extrêmement radicale du rôle de l'État, dans ce formatage, de la vie quotidienne, aussi bien du point de vue de l'habitat que de la culture. Donc maintenant, je donne la parole à Roch. Je vais malheureusement limiter, les interventions parce que compte tenu du temps, et rappelez-vous mon intervention au début, on est malheureusement gardien du temps. Donc, je laisse, il y a deux inscrits pour l'instant, Roch et Alban. Est-ce que de Bruit de Fureur, vous voulez prendre la parole? Parce que jusqu'à présent, vous vous avez pas pris la parole. Est-ce que vous avez envie de prendre la parole? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent s'inscrire? Après, je clôt les inscriptions pour clore le débat. Ok, donc, Roch, Léon et, Camille, d'accord. Voilà.
En fait, pour dire une chose, je trouvais très important l'intervention de Magdalena, parce que c'est vrai, cette ségrégation sociale selon la qualité de l'environnement, etc., c'est très important. Et Grand Montana, tous ces chalets. Deuxièmement, la culture, c'est très important, mais bon, si je dis ça comme ça, les artistes vont se prendre pour, peut-être être trop important. Mais Guy Debord a dit qu'en fait, en mai 68, les artistes se sont mêlés dès la Révolution. Avant, ils ne le faisaient pas parce qu'ils croyaient que, je les cite en gros, les étendards des révolutions étaient tenus par d'autres mains, plus expertes. Donc, au moment où les artistes ont vraiment pris en main la Révolution, ça donnait quelque chose de fort, quoi. Pas laisser à nous, les politiques ou les militants, la Révolution. Maintenant, un témoignage par rapport aux espaces comme les squats. Alors moi, j'ai senti qu'il y avait... c'est très difficile d'entrer dans ce milieu, quoi. Et je comprends... Pour moi, la chute des squats, c'est l'échec du lien avec les habitants du quartier, quoi. C'est-à-dire, ils ont peut-être vu qu'il faut faire des pétitions aux autorités, etc. Ça, c'est un sens de ce dont tu as parlé de la communication. Mais l'autre, je parlais avec Ivar de la Fédération d'Association des Quartiers, comment elle est devenue moribonde, quoi, suite aux luttes politiciennes à l'intérieur, quoi, entre militants. Et en fait, je pense qu'à la fin, les gens ne vous comprenaient plus, quoi. Les gens ne comprenaient plus les squats, parce que les gens du quartier même, du voisinage, tu vois, quand tu parles du bruit, des plaintes, c'est peut-être un peu ça. Enfin, moi, j'ai connu la vie alternative en Suisse allemande, donc elle est assez forte, mais j'avais vraiment un mal extrême à rentrer dedans, quoi. Je pouvais venir aux soirées, mais ça s'arrêtait là, quoi. J'avais l'impression que le milieu était très hermétique, très... Voilà. Et puis un peu, si on va jusqu'au bout de la critique, un peu, comme toute la ville est un peu narcissique, les banquiers sont super imbus d'eux-mêmes, mais j'ai aussi l'impression que les gens des squats l'étaient d'une autre façon aussi, quoi. On est révolutionnaire, un peu, ça ressort dans votre texte, qu'on est des derniers barbares, on va nous éliminer, etc. Mais c'était un trop regard sur soi, quoi. Il fallait plus... c'est dire c'est précaire comme situation, ça ne va pas durer longtemps, la droite va contre-attaquer, il fallait garder ses liens à la classe d'habitants, quoi, parce que c'est ça qui allait vous défendre. Quoi. Puis, voilà, maintenant, ça s'est passé comme ça. Quoi. Et puis, deux vraies questions, parce que tout le monde fait des remarques, mais deux vraies questions. Alors, c'est quoi qui est bon à Charny? Enfin, qu'est-ce qui marche bien à Charny? Tu as juste évoqué la coopération.
Charpine.
À Charpine.
Ouais.
Je comprends. Ouais. Non, c'est moi qui ne prends pas franco.
Et là, il y a une volonté de
dans
les quartiers.
C'est bien. Et puis la deuxième question, tu as évoqué la troisième question, la participation. Tu as parlé d'un audit. C'est quoi pour comprendre? Un audit qui a été fait soi-disant, enfin, je ne sais pas.
Oui, parce qu'en fait, il y a ce travail qui a été fait par la plateforme des gens, qui a été fait par un travail dans lequel il a participé de la mission de travail avec sa personne. Et puis, moi, je trouve que je n'ai pas eu envie de le dénier, parce que c'était ma conscience en étant audite. Je ne sais pas, à part qui a fait les films et à qui a été le dénier, c'est bien le
C'est qui l'a commandé, la ville?
C'est l'État.
Ok. Oh, d'accord, c'est parfait.
Peut-être que juste avant que ça continue sur une grosse base, je tiens juste à préciser que, en tous les cas, de bruit et de fureur ne représente pas les squatteurs de bois. Donc je ne sais pas d'où sort cette information erronée, mais je tiens juste à ce que vous vous adressiez plus aux intervenants de ce débat en tant que squatteurs. Oui.
On n'a pas besoin d'étiquette. On n'a pas besoin d'étiquette.
Non,
mais non.
Il y a
une question
étant que je dis qu'en tant que groupe d'organisation, il y a eu un gros problème de pirate. C'est extrêmement mauvais droit. On a tout à fait compris que le jeu des fureurs n'est ne représente absolument pas le squat. Je veux dire, ce n'est pas représenté ici.
Comme en témoigne le tract des affichés qui est correct.
Léo Ménier qui a la parole, ensuite il y aura Camille, ensuite il y aura Flo, ce débat
sur la
sécurité. C'est ma parole.
Alors. Bon, je voulais donc déjà juste dire une chose. Ouais. Je voulais donc déjà juste dire une chose par rapport à Artamis et à son transfert qui a été fait là du côté de Charmy, hein. Pictet, hein. Ernest Pictet. Un des gros problèmes avec ce transfert, il est lié au fait que les artisans ou les artistes qui avaient des espaces là-bas, pouvaient disposer de ces espaces à la seule condition qu'il n'ait pas un espace commun où ils puissent se rassembler pour faire la fête. Il fallait absolument pas qu'il y ait de collectivité musicale, festive, vivante. Parce que ça, c'est contraire au bon fonctionnement de la ville, on le sait bien. Hein, aujourd'hui, la polémique, c'est on est en danger parce qu'il y a un gars au coin de la rue avec un couteau et il y a trop de bruit, je peux pas dormir. Hein, c'est ça la règle de Genève. Il faut savoir si on est pour ou si on est contre. Si on est contre, il faut se mobiliser parce qu'il y a du boulot, hein. L'usine, elle sait ce que c'est. Je crois que ce qui est important, j'ai tout à l'heure attiré votre attention sur la loi, ce projet de loi sur la culture. Il faut être extrêmement attentif à ce projet de loi parce qu'il y a des choses qui sont aberrantes dedans et qui vont encore une fois refermer davantage l'ouverture sur l'alternatif. Parce que l'alternative n'a pas sa place là-dedans. Il y aura un conseil de la culture qui sera le couperet qui dira ça c'est bon, ça c'est pas bon. ça c'est professionnel, ça c'est pas professionnel. Et à partir de là, il y aura plus du tout de raison de pouvoir trouver une espérance dans un interstice, comme les interstices dont ils ont parlé de manière très intelligente. C'est dans les interstices qu'on fait effectivement aujourd'hui une culture différente. Il faut savoir, pour citer trois choses à Genève, j'aimerais citer trois exemples très différents. J'aimerais citer l'exemple du cabaret d'avant-guerre à la Cave 12 que certains d'entre vous ont dû voir. Ce cabaret d'avant-guerre qui était pour moi là une très grande révélation culturelle parce que c'était un spectacle vraiment plein d'énergie, plein de création avec des gens de talent. Et des gens qui sont à la culture aujourd'hui m'ont dit il faut attendre qu'ils fassent leurs preuves avant qu'ils aient des subventions. Ça, c'est un élément. Et ça, on est dans le même cas de figure avec beaucoup de choses aujourd'hui. Avec beaucoup de choses. L'autre cas, il est lié à au problème qui se pose avec le théâtre des montreurs d'images. Aujourd'hui, les théâtres des montreurs d'images ont perdu leurs subventions. Personne dans les politiciens, dans les groupes politiques institutionnels n'a réagi contre cette décision absolument inadmissible pour un groupe extrêmement investi depuis 40 ans dans notre cité et qui a produit beaucoup de d'éléments culturels de qualité et qui surtout a animé des manifestations extraordinaires sur Genève. Et on fait fi de ça parce que ce sont encore des gens qui sont capables de se mobiliser aujourd'hui et personne n'a réagi pour eux. J'ai réussi à l'arracher, à faire écrire une lettre au Théâtre du Loup qui a apporté son soutien à Monique Descoster. J'aimerais encore juste dire une chose importante par rapport, puisque j'ai milité pendant 4 ans avec mon épouse dans le RAC, dire l'ignoble attaque dont avait été victime la directrice d'un théâtre institutionnel, en l'occurrence le théâtre de poche, par rapport à l'arrangement qu'elle faisait avec les comédiens au niveau des contrats pour leur permettre justement de bénéficier de meilleurs avantages au niveau du chômage au moment où ils arrivaient à la fin de leur mandat. Elle a été attaquée puisqu'en fait son dossier était déposé devant le procureur. Et personne au niveau culturel n'a réagi. Je suis intervenu au RAC et on m'a répondu « Léon, si tu interviens sur ce sujet, politiquement t'es mort. C'est quoi ?» Ça veut dire que quand des gens ont du courage, on doit s'accoincer et on n'ose pas dire ce qu'on doit dire. Il faut se mobiliser.
Merci Léon. La parole à Camille. Hein.
Non, c'était juste pour ajouter, parce que je suis aussi membre de l'UECA, maintenant on nous demande de faire des dossiers pour pouvoir avoir accès à un lieu. Et moi, mon point de vue, c'est y a des gens qui ont envie, qui ont la capacité de faire des dossiers pour ouvrir un espace, mais il y a des gens qui n'ont peut-être pas envie, qui n'ont peut-être pas les capacités de faire ces dossiers et du coup ça fait que ces gens n'ouvrent plus d'espace. Et il y avait aussi un truc avec les squats, c'est que les gens ouvraient une maison, ils habitaient dedans et puis c'était peut-être pas tout de suite, mais au bout de quelques mois peut-être ils disaient tiens on a une cave, tiens on pourra faire des concerts dans la cave. Et du moment qu'il n'y a plus les squats, ça n'existe plus et faut peut-être pas s'étonner du manque de lieux du moment qu'il n'y a plus les squats, quoi.
Merci Camille.
Beaucoup, je suis vraiment désolée de devoir être la gardienne du temps. Hein, je veux dire, vous le savez, je vous l'ai dit au début. Donc on va faire une pause. Je veux dire, je trouve que c'est extrêmement riche ce débat, comme celui de précédent d'ailleurs. Je vous propose une pause qui était prévue d'un quart d'heure, mais je crois qu'on va la faire de 10 minutes compte tenu du fait qu'on a pris du retard. Donc, on se retrouve dans 10 minutes ici, pour le troisième débat.
Bonsoir, je voulais juste la parole.